4. La découverte de ces lettres m'avait anéanti. Je ne bouffais plus, je ne dormais plus. J'étais brisé, submergé par une douleur qui me rendait fou. Mes notes en chute libre inquiétaient mes profs et ma famille. Face aux interrogations de ma mère, je n'avais pu faire autrement que de lui raconter ce qui m'accablait. Je lui avais parlé de mes sentiments pour Vinka et des lettres que j'avais trouvées. Elle m'avait répondu sans chaleur qu'aucune fille ne valait que je gâche ma scolarité pour elle et m'avait ordonné de me ressaisir au plus vite. J'avais la prémonition que jamais je ne sortirais vraiment de ce gouffre dans lequel j'avais chuté, même si j'étais loin d'imaginer la réalité du cauchemar qui m'attendait. Pour être franc, je comprenais que Vinka se sente attirée par Clément. Je l'avais eu comme prof en terminale l'année précédente. Je l'avais toujours trouvé superficiel, mais je reconnaissais qu'il savait faire illusion. À cet âge de ma vie, le combat était déloyal. À ma droite, Alexis Clément, 27 ans, beau comme un astre, classé 15 au tennis, conduisant une Alpine A310 et citant Schopenhauer dans le texte. À ma gauche, Thomas Degallet, 18 ans, qui trimait en maths sup, recevait de sa mère 70 francs d'argent de poche par semaine, roulait sur une mobilette 103 Peugeot au moteur même pas débridé, et passait l'essentiel de son maigre temps libre à jouer à kick-off sur son Atari ST. Je n'avais jamais considéré que Vinka était à moi. Mais Vinka était faite pour moi, comme j'étais fait pour elle. J'étais certain d'être la bonne personne, même si ce n'était pas forcément le bon moment. Je pressentais que viendrait un jour où j'aurais ma revanche sur des types comme Alexis Clément, même s'il faudrait encore bien des années pour que la vapeur se renverse. En attendant que ce jour arrive, défilaient dans ma tête des images de mon ami en train de coucher avec ce mec. Et cela m'était insupportable. Lorsque le téléphone sonna cet après-midi-là, j'étais seul à la maison. La veille, date du début officiel des vacances, mon père était parti à Papeete avec mon frère et ma sœur. Mes grands-parents paternels vivaient à Tahiti depuis une dizaine d'années, et nous y passions Noël une année sur deux. Cette année, mes résultats scolaires médiocres m'avaient incité à renoncer au voyage. Quant à ma mère, elle avait décidé de passer les congés de fin d'année dans les Landes, chez sa sœur Giovanna, qui se remettait difficilement d'une lourde opération chirurgicale. Son départ n'était prévu que le lendemain, et pour l'heure, c'est elle qui faisait office de directrice de la cité scolaire et qui tenait la barre du navire pris dans la tempête. Depuis le matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner à cause des chutes de neige. À Sofia Antipolis, à cette époque, il ne fallait pas compter sur les saleuses ou les chasse-neige pour vous déblayer la route. Une demi-heure plus tôt, ma mère avait été appelée en catastrophe. Un camion de livraison s'était déporté en travers de la route verglacée et barrait l'accès à l'établissement au niveau de la guérite du gardien. En désespoir de cause, elle avait demandé de l'aide à Francis Biancardini, le père de Maxime, qui avait promis de venir le plus rapidement possible. Je décrochai donc le combiné en pensant à une énième urgence liée à la météo ou à un appel de Maxime pour annuler notre rendez-vous. Le samedi après-midi, nous avions l'habitude de nous retrouver pour jouer au baby chez Dino, mater des séries en VHS, échanger des CD, squatter avec nos mobs devant le McDo sur le parking du Carrefour d'Antibes avant de rentrer voir les buts du championnat de France dans Jour de foot. « Viens, Thomas, s'il te plaît. » Mon cœur se serra dans ma poitrine. Ce n'était pas la voix de Maxime. C'était celle, légèrement étouffée, de Vinka. Alors que je la croyais repartie dans sa famille à Boston, elle m'expliqua qu'elle était encore à Saint-Ex, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle souhaitait me voir. J'avais bien conscience de tout ce que mon comportement pouvait avoir de pathétique, mais chaque fois que Vinka m'appelait, chaque fois qu'elle me parlait, je reprenais espoir et j'accourais. C'est bien sûr ce que je fis cette fois encore, maudissant ma faiblesse, mon manque d'amour-propre et regrettant de ne pas avoir la force morale de jouer l'indifférence. 5. Prévu pour la fin de l'après-midi, le redoux se faisait attendre. Le froid était mordant, renforcé par les bourrasques de Mistral qui fouettaient les flocons cotonneux. Dans la précipitation, j'avais oublié d'enfiler des bottes ou des après-ski, et mes Air Max s'enfonçaient dans la neige. Emmitouflé dans ma doudoune, j'avançais courbé face au vent, tel une sorte de Jeremiah Johnson à la poursuite d'un grizzly fantomatique. Malgré mon empressement et bien que les bâtiments de l'internat ne fût-ce qu'à une centaine de mètres du logement de fonction de mes parents, il me fallut presque 10 minutes pour rejoindre la résidence Nicolas de Staël. Sous la tempête, la bâtisse avait perdu sa couleur céruléenne pour n'être plus qu'une masse grise et spectrale happée par un brouillard de nacre. Le hall était aussi désert que glacial. On avait même fermé les portes coulissantes qui permettaient d'accéder à la salle commune des étudiantes. J'ai pousté la neige collée à mes chaussures et monté l'escalier 4 à 4. Dans le couloir, je frappai plusieurs fois à la chambre de Vinca. Comme je n'obtenais pas de réponse, je poussai la porte et avançai dans une pièce claire qui sentait la vanille et le benjoin, l'odeur caractéristique du papier d'Arménie. Les yeux clos, Vinca était couché au fond de son lit. Sa longue chevelure rousse disparaissait presque entièrement sous une couette éclaboussée par la réverbération laiteuse du ciel de neige. Je m'approchai d'elle, effleurai sa joue et posai la main sur son front. Il était brûlant. Sans ouvrir les yeux, Vinca marmonna quelques mots dans son demi-sommeil. Je décidai de la laisser dormir et jetai un coup d'œil dans la salle de bain, à la recherche d'un cachet pour faire baisser la fièvre. La boîte à pharmacie débordait de médicaments lourds, somnifères, anxiolytiques, antidouleurs, mais je n'y trouvais pas de paracétamol. Je ressortis pour aller frapper à la porte de la dernière chambre du couloir. Le visage de Fanny Brahimi apparut dans l'embrasure. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Même si on ne se voyait plus beaucoup depuis le début de l'année scolaire, enfouie dans nos études respectives, c'était une amie fidèle.
« Salut Thomas !»
dit-elle en retirant les lunettes de vue posées sur son nez. Elle portait un jean déchiré, des converses usées et un chandail XL en mohair. La grâce et la lumière de son regard étaient presque éteintes par le col charbonneux qui entourait ses yeux. Un maquillage raccord avec l'album de The Cure qui tournait sur sa platine.
« Salut Fanny, j'ai besoin d'un coup de main. »
Je lui expliquai la situation et lui demandai si elle avait du paracétamol. Alors qu'elle allait m'en chercher, j'allumai le réchaud à gaz de la chambrette pour mettre de l'eau à chauffer.
« Je t'ai trouvé du Doliprane !»
dit-elle en me rejoignant.
« Merci. Tu pourras lui préparer du thé ?»«
Oui, avec beaucoup de sucre pour qu'elle se déshydrate pas trop. Je m'en occupe. » Je retournai dans la chambre de Vinca. Elle ouvrit les yeux avant de se redresser sur son oreiller.
« Avale ça !»
dis-je en lui tendant 2 comprimés.
« Tu es brûlante !»
Elle ne délirait pas, mais elle était mal en point. Lorsque je lui demandai pourquoi elle m'avait appelé, elle éclata en sanglots. Même fiévreuse, même le visage défait et baigné de larmes, elle gardait un pouvoir d'attraction incroyable et dégageait une aura inexplicable, éthérée, onirique. Le son pur et cristallin d'un célestat dans un morceau folk des années 1970.
« Thomas !»
balbutia-t-elle.
« Que se passe-t-il ? Je suis monstrueuse.
N'importe quoi, pourquoi tu dis ça ?» Elle se pencha vers la table de nuit et y attrapa quelque chose que je pris d'abord pour un stylo avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un test de grossesse.
« Je suis enceinte. »
En regardant la petite barre verticale indiquant que le test était positif, je me rappelais certains fragments de la correspondance d'Alexis, dont la lecture m'avait révulsé. « Nous fonderons bientôt notre propre famille. Notre enfant scellera nos 2 destins pour l'éternité. Il aura ton sourire d'ange et tes prunelles d'argent. »«
Il faut que tu m'aides, toi. »
J'étais trop bouleversé pour comprendre quel genre de réconfort elle attendait de moi.
« Je voulais pas, tu sais, je voulais pas. »
bredouilla-t-elle. Alors que je m'asseyais à côté d'elle sur le lit, elle me fit cette confidence entre 2 sanglots.
« C'est pas ma faute. C'est Alexis qui m'a forcé. »
Abasourdi, je lui demandai de répéter, et elle précisa.
« C'est Alexis qui m'a forcé. Je voulais pas coucher avec lui. »
C'est la phrase exacte qu'elle a prononcée, mot pour mot. « Je ne voulais pas coucher avec lui. » Ce salopard d'Alexis Clément l'avait contrainte à faire des choses dont elle n'avait pas envie. Je me suis levé du lit, résolu à agir. Je vais tout arranger, et j'assurai en me dirigeant vers la porte. Je reviens te voir plus tard. Puis je suis ressorti en bousculant Fanny, qui entrait avec son plateau de thé. Je ne le savais pas encore, mais il y avait deux mensonges dans ma dernière phrase. D'abord, je n'allais rien arranger du tout, bien au contraire. Ensuite, je ne reviendrai pas voir Vinka. Ou plutôt, lorsque je reviendrai, elle aurait disparu pour toujours. 6. Dehors, il ne neigeait plus, mais des nuages métalliques assombrissaient l'espace. Le ciel était bas, écrasant, prélude à la nuit qui ne tarderait pas. J'étais traversé de sentiments contradictoires. J'étais sorti de la chambre furieux et révolté par la révélation de Vinka, mais avec une certaine détermination. Tout à coup, les choses reprenaient leur sens. Alexis était un imposteur et un violeur. Je comptais toujours pour Vinka, et c'est à moi qu'elle avait fait appel pour l'aider. Le bâtiment dans lequel logeaient les profs n'était pas très loin. Alexis Clément avait une mère allemande et un père français. Il était diplômé de l'université de Hambourg et employé à Syntex sous un contrat de droit local. En tant que professeur résident, il avait droit à un logement de fonction au sein d'un petit immeuble situé au-dessus du lac. Pour m'y rendre, je coupais à travers le chantier du gymnase. Les dalles maçonnées, les fondations, les bétonnières, les murs de briques avaient presque disparu, masqués par une épaisse couche de neige encore immaculée. Je pris tout mon temps pour choisir mon arme et optai finalement pour une barre de fer abandonnée par les ouvriers dans une brouette près d'un tas de sable. Je ne pourrais pas prétendre que mon geste n'était pas prémédité. Quelque chose s'était réveillé en moi, une violence ancestrale et primaire qui me galvanisait. Un état que je ne connus qu'une seule fois dans ma vie. Je me souviens encore aujourd'hui de cet air enivrant, à la fois glacé et brûlant, pur et salé, qui m'électrisait. À présent, je n'étais plus l'étudiant poussif qui soupirait devant son problème de maths. J'étais devenu un combattant, un guerrier qui montait au front sans faillir. Lorsque j'arrivais enfin devant la bâtisse des professeurs, la nuit était presque tombée. Au loin, sur les eaux sombres du lac, le ciel tremblait de ses reflets d'argent. Pendant la journée, le week-end y compris, on pouvait accéder au hall d'entrée sans sonner, ni en avoir la clé. À l'image de l'internat des élèves, la résidence était froide, silencieuse et sans vie. Je grimpai l'escalier d'un pas décidé. Je savais que le prof de philo était chez lui, car j'avais entendu le matin même ma mère lui répondre au téléphone lorsqu'il avait appelé pour la prévenir que le vol pour Munich était annulé à cause des intempéries. Je cognai à la porte, derrière laquelle résonnait le bruit de la radio. Alexis Clément m'ouvrit, sans se méfier.
« Ah, bonjour Thomas !»
Il ressemblait au tennisman Cédric Pioline, un grand brun aux cheveux bouclés qu'il avait laissé pousser jusqu'au bas de la nuque. Il me dépassait de 10 bons centimètres et était bien plus costaud, mais à cet instant, il ne m'impressionnait pas du tout.
« Tu as vu ce temps ?»
s'exclama-t-il.
« Dire que j'ai prévu d'aller skier à Berchtesgaden. Je suis sûr qu'il doit y avoir moins de neige qu'ici. »
La pièce était surchauffée. Un gros sac de voyage était posé près de la porte. De la chaîne y fit compacte s'élevait la voix de miel de Jean-Michel Damian. Les imaginaires, c'est terminé pour aujourd'hui, mais restez sur France Musique avec Alain Gerbert et son jazz. Alors qu'il venait tout juste de m'inviter à entrer, Clément aperçut ma barre de fer.
« Qu'est-ce que tu... »
commença-t-il en écarquillant les yeux. L'heure n'était plus à la réflexion, ni à la discussion. Le premier coup partit de lui-même, comme si quelqu'un d'autre l'avait donné à ma place. Il atteignit le prof en pleine poitrine, le fit vaciller et lui coupa le souffle. Le second lui fit exploser le genou, lui arrachant un hurlement.
« Pourquoi tu l'as violé, espèce de taré ?»
Alexis Clément essaya de se rattraper au bar qui servait de séparation entre la pièce principale et la kitchenette, mais il l'entraîna avec lui dans sa chute. Une pile d'assiettes et une bouteille de San Pellegrino se brisèrent sur le carrelage sans m'arrêter dans mon élan.
J'avais perdu tout contrôle de moi-même. Le prof était à terre, mais je continuais à le frapper sans lui offrir le moindre répit. J'enchaînais les coups méthodiquement, sous l'emprise d'une force qui me dépassait. Les coups de pied avaient succédé aux coups de barre. Dans ma tête, les images de ce salopard en train d'agresser Vinka alimentaient ma fureur et ma rage. Je ne voyais plus Clément. Je ne m'appartenais plus. J'avais conscience que j'étais en train de commettre l'irréparable, mais j'étais incapable de me ressaisir. Prisonnier d'un engrenage fatal, j'étais devenu une marionnette aux mains d'un démiurge exterminateur. Je ne suis pas un meurtrier. La voix résonna dans ma tête, faiblement. L'esquisse d'une échappatoire, le dernier appel avant le point de non-retour. Je lâchai soudain ma barre de fer et me figeai dans mon mouvement. Clément profita de mon hésitation. Rassemblant ses forces, il m'attrapa par le mollet et, à cause de mes semelles glissantes, parvint à me déséquilibrer. À mon tour, je m'étalai sur le sol. Le prof était bien amoché, mais il fut sur moi en un éclair, basculant du statut de proie à celui d'agresseur. Il pesait sur moi de tout son poids et ses genoux m'enserraient comme une tenaille, paralysant mes mouvements. J'ouvris la bouche pour crier, mais déjà Clément venait de se saisir d'un tesson de bouteille. Impuissant, je le vis lever le bras pour abattre sur moi le long morceau de verre brisé. Puis le temps se délita, et je sentis ma vie s'échapper. Ce fut l'une de ces secondes qui donnent l'impression de durer plusieurs minutes. L'une de ces secondes qui font basculer plusieurs existences. Et d'un coup, tout s'accéléra. Un flot brunâtre de sang tiède jaillit et inonda mon visage. Le corps de Clément s'affaissa et j'en profitai pour retirer mon bras et m'essuyer les paupières. Lorsque j'ouvris les yeux, mon regard était flou, mais au-dessus de la masse sombre du prof, je devinais la silhouette indécise et estompée de Maxime. Ses cheveux clairs, son survêt Challenger, son blouson teddy en laine grise et cuir rouge. 7. Maxime n'avait eu besoin que d'un seul coup de couteau. Un geste rapide, une lame brillante, à peine plus longue qu'un cutter, qui n'avait en apparence qu'effleuré la jugulaire d'Alexis Clément.
« Il faut appeler les pompiers !»
criai-je en me relevant. Mais je savais bien qu'il était trop tard. Clément était mort. Et moi, j'avais du sang partout. Sur mon visage, mes cheveux, mon pull, mes godasses. J'en avais même sur les lèvres et le bout de la langue. Pendant un moment, Maxime resta comme moi. Abattu, prostré, anéanti. Incapable de prononcer la moindre parole. Ce n'étaient ni les pompiers, ni une ambulance que nous allions appeler. C'était la police.
Attends, mon père est peut-être encore là,
s'écria-t-il en sortant de sa léthargie.
Où ça? Près de la guérite du gardien.
Il quitta le studio de Clément et je l'entendis dévaler l'escalier, m'abandonnant avec le cadavre de l'homme que nous venions de tuer. Combien de temps suis-je resté seul? 5 minutes, un quart d'heure? Enveloppé d'une chape de silence, j'ai eu à nouveau cette impression que le temps s'immobilisait. Pour éviter de regarder le mort, je me souviens d'être demeuré le nez collé à la fenêtre. La surface frémissante du lac était à présent plongée dans le noir, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur pour l'éteindre. J'ai essayé de me raccrocher à quelque chose, mais je me suis noyé dans la réverbération de la neige. Sa blancheur d'abîme me renvoyait à ce que serait désormais notre existence. Car je savais que l'équilibre de nos vies venait de se rompre à jamais. Ce n'était pas une page qui se tournait, ni même la fin d'une époque. C'était le feu de l'enfer qui s'ouvrait brutalement sous la neige. Soudain, il y eut du bruit dans l'escalier et la porte claqua. Escorté par son fils et par son chef de chantier, Francis Biancardini débarqua dans la pièce. L'entrepreneur en maçonnerie était fidèle à lui-même. Cheveux poivre et sel en bataille, parka en cuir éclaboussé de gouttes de peinture, torse bombé, emprisonné dans ses kilos en trop.
« Ça va aller, petit ?»
me demanda-t-il en cherchant mon regard. J'étais hors d'état de lui répondre. Sa silhouette lourde donnait l'impression de remplir à elle seule tout l'appartement, mais sa démarche féline et décidée contrastait avec l'épaisseur de son physique. Francis se planta au milieu de la pièce et prit le temps d'évaluer la situation. Son visage fermé ne laissait pas transparaître la moindre émotion.
comme s'il avait toujours su que ce jour viendrait. Comme si ce n'était pas la première fois qu'il avait à faire face à ce genre de drame.
« À partir de maintenant, je prends les choses en main », annonça-t-il en nous regardant alternativement Maxime et moi.
Je crois que c'est en entendant sa voix, calme et posée, que je compris définitivement que le masque de bourrin facho que Francis Biancardini affichait en public ne correspondait pas à sa véritable personnalité. En ces heures sombres, l'homme que j'avais devant moi faisait plutôt penser à un implacable chef de gang. Francis m'apparaissait comme une sorte de parrain. Mais s'il y avait la moindre chance qu'il nous sorte de là, j'étais prêt à lui faire allégeance.
« On va nettoyer ça », dit-il en se tournant vers Ahmed, le chef de chantier. « Mais d'abord, va chercher des bâches dans la camionnette. »
Le Tunisien avait la mine pâle et les yeux terrifiés. Avant de s'exécuter, il ne put s'empêcher de demander.
« C'est quoi le plan, patron ?»«
On va le foutre dans le mur »,
répondit Francis en désignant le cadavre d'un signe du menton.
« Quel mur ?»
demanda Ahmed. « Le mur du gymnase. »